Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Émilie, c'est leur prénom. Elles sont trois. Trois jeunes femmes qui, au XIXe siècle dans notre région, l'une à Castres, l'autre à Villefranche-Rouergue et la troisième à Gaillac, répondant à l'appel du Seigneur, non seulement embrassent la vie religieuse, mais font de chacune d'entre elles une nouvelle congrégation. Les Sœurs Bleues, la Sainte Famille et les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Au lendemain de la Révolution, dans une société qui avance vers l'ère industrielle et qui laisse de nombreux miséreux derrière elle, Émilie de Villeneuve, Émilie de Vialard et Émilie de Roda, profondément enracinées en Dieu, dont elles cherchent toujours à faire la volonté, se mettent à l'écoute des besoins de leur temps et vont, selon les mots d'Émilie de Villeneuve, là où les pauvres les appellent. Elles visitent les malades et les prisonniers, accueillent des jeunes femmes dans le besoin, des prostituées, des enfants et ouvrent des écoles. Dans un souci missionnaire, elles ouvrent peu à peu des maisons sur tous les continents. Aujourd'hui, retour aux origines. Dans la maison mère de chacune des trois congrégations, fondée chacune par l'une des trois Émilie. Sainte-Émilie de Villeneuve, Sainte-Émilie de Vialard, Sainte-Émilie de Roda. Nous sommes à Castres, au couvent bleu, qui abrite toujours un ensemble scolaire et un EHPAD. Nous sommes avec Sœur Michel.
C'est Michel. Voilà ce qu'était la salle d'études.
Et qui est devenue, donc là c'est
la
pour
grande
les,
salle, pour la maison de retraite.
Pour la maison de retraite. Voilà.
Puis au fond, il y a le grand restaurant, on a ajouté une aile. C'est bien qu'ils viennent chez nous comme ils veulent, il n'y a pas de...
Ah oui, il y a vraiment le lien qui peut se faire très facilement.
Alors c'est sûr, il a fallu qu'on abatte les bâtiments. Vous vous rappelez, il y avait des bâtiments le long de la rue. Il y avait les cours de dessin qui s'y donnaient.
Oui.
Bon, tout ça a été rasé pour agrandir la maison de retraite.
Bonjour.
Bonjour. Nous, on est juste au milieu. On a gardé vraiment la partie centrale du temps d'Émilie. Bon, nous sommes 8, mais nous avons une capacité d'accueil de 42 personnes parce que nous avons les rencontres qui se font ici.
Et entre les jeunes du lycée et la maison, avec les
pâtes, il
y a des activités.
Ils vont, ça se met en place parce que la maison de retraite a 4 ans, à peine. Alors, il faut laisser le temps que les choses se mettent en place. Les petits du primaire viennent faire des animations. Je vais vous montrer la chapelle. Alors, les résidents qui le veulent peuvent venir à la messe.
La messe est célébrée
tous les jours. Tous les jours.
Un évangile grand ouvert, toute sa vie en est la preuve. Pour nous, elle est une lumière, Sœur Émilie de Villeneuve.
Vous m'accueillez ici, dans la maison mère de la congrégation des Sœurs Bleues de l'Immaculée Conception. Et c'est ici que Jeanne-Émilie de Villeneuve a fondé la congrégation des Sœurs Bleues, justement, de l'Immaculée Conception.
Alors, elle a fondé à Castres, mais pas directement ici. La première maison des Sœurs, en fait, nous étions locataires rue Tolosane, derrière la Platée. C'est ce qui explique que Mère Émilie a prononcé ses vœux à la Platée. Et elles avaient loué 2 appartements. Les sœurs en occupaient un et dans l'autre, elles avaient regroupé des jeunes filles de la ville qui venaient pour apprendre les broderies, puisqu'à l'époque, c'était le travail des dames. Mais très vite, ça s'est avéré trop petit. Dans un premier temps, elles ont loué un bâtiment chez les sœurs de la Présentation. Et ensuite, elle a cherché ici cette colline. Et quand elle a vu que sur la colline, il y avait une possibilité d'avoir des puits, elle a dit, c'est là qu'on va construire. Et c'est ce qui explique que nous sommes ici sur ce qu'on appelait à l'époque la colline du Crabier.
Crabier, ça veut dire les c'est
chèvres.
Quoi
c'est les... Je crois que c'est les chèvres. Je ne suis pas du coin, mais je pense que c'est ça.
L'Immaculée Conception. Pourquoi la congrégation de l'Immaculée Conception?
Bon, ça peut surprendre, parce qu'au niveau Église, il n'y avait pas encore le dogme. Bon.
Parce que là, nous étions en quelle année? Vous pouvez le préciser?
1836, la fondation.
Et le dogme, c'est...
En 1854, je crois, quelque chose comme ça. Et Émilie, elle avait une grande dévotion à la Vierge. Mais je pense aussi que l'expression commençait à courir au niveau du peuple de Dieu qui s'adressait à la Mère de Dieu, qui ne pouvait être qu'immaculée. Parce que le dogme ne fait que confirmer ce qui est déjà en place. Et elle a donc choisi cette appellation Immaculée Conception. On va aller à la chambre des souvenirs. Nous avons rassemblé tout ce qui avait appartenu à Émilie.
Donc il faut prendre l'ascenseur.
Oui, parce que j'ai un problème de genou.
Et c'est dans cette chambre qu'elle est décédée?
C'est là qu'elle est décédée, oui.
Pardon.
Cette partie de l'infirmerie correspondait avec la chapelle. Ici, il y avait une fenêtre qui donnait sur la chapelle, si bien que les sœurs malades pouvaient suivre la messe. D'accord. Il n'y avait pas de système de sonorisation comme aujourd'hui, mais on trouvait des solutions.
Et donc là, vous avez recréé le lit?
Nous avons recréé le lit comme il était à l'époque.
Voilà, c'est ça.
Par contre, le bureau, c'était vraiment son bureau et sa chaise.
Vous avez remis des plumes d'oie?
De l'époque, oui. On a essayé vraiment de reconstituer la statue de Notre-Dame des Victoires. Elle avait une grande dévotion à Notre-Dame des Victoires.
Et elle est décédée du choléra?
Oui. Oui, la dernière décédée du choléra dans la ville de Castres. Et pour nous, nous pensons qu'elle a donné sa vie. Parce que quelque temps auparavant, elle était partie avec une postulante, une sœur professe, à Pibrac, prier Sainte-Germaine pour que la maladie s'arrête. Et à son retour... C'est elle qui l'a attrapée et qui est morte, et ça a été le dernier décès dans la ville. D'accord. Alors pour nous, on s'est dit qu'elle a donné sa vie pour la ville de Castres. Ah oui. Alors ici, ce gros chaudron nous rappelle qu'une des premières missions des sœurs à Castres était de s'occuper des prisonniers. Elles préparaient la nourriture et allaient la porter à la prison. Et là, elles étaient chargées... De changer les pailles des cellules, puisqu'il n'y avait pas de matelas, régulièrement, et tout, c'était leur travail. La mairie leur remettait tant de kilos de pommes de terre, de pain et tout, par prisonnier. Et elle, après, elle devait tout préparer.
Donc, attends, elle faisait cuire la soupe.
Elle faisait cuire la soupe là-dedans, et avec la carriole, il fallait aller à la prison en ville. Rien que déjà le poids du chaudron. Dans cette armoire, ce sont les habits d'Émilie.
Donc ça, c'est la...
C'était sa robe.
Sa robe, oui.
La petite cape, la coiffe et tablier qu'on mettait à l'époque.
Aujourd'hui, vous avez simplifié.
Très simplifié. Bon, c'est aussi dans l'air du temps. Hein. On est dans le monde. Hein. En fait, bon, l'habit en lui-même comme il est, c'était l'habit des dames d'ici, de la campagne.
Et là, oui, une couronne d'épines, c'est...
Parce que quand nous faisons les vœux perpétuels, on nous donne une couronne d'épines pour nous rappeler notre engagement à la suite du Seigneur. Quand on devient novice, on a une couronne de fleurs. Quand on devient professe, on nous donne la couronne d'épines. Il y avait tout un symbole, nous rappeler ce service qui va jusqu'à donner sa vie.
Donc là, c'est une vue du château d'Autrive.
Oui. Alors ici, il y a c'est des photos de l'exhumation qui a eu lieu en 1955. Et alors, le cercueil qui a été retiré, il ne restait le squelette entier, le cerveau, mais vraiment le squelette entier, hein, et l'habit. Mais l'habit n'avait plus un fil de couture. Alors on ne comprend pas, parce que normalement, la tombe a été remplie de soude à cause du choléra. On n'aurait dû rien retrouver.
Ce sont ses cheveux
qui ont été coupés au moment de sa profession religieuse. Et ils avaient été remis par Émilie à sa grande amie Coralie de Gaïs. Et il y a quelques années, la famille de Blaye de Gaïs a retrouvé ça et nous les ont remis.
Et pour fonder la congrégation, elle n'a pas eu de difficultés particulières pour fonder la congrégation?
La difficulté, c'était elle. Elle ne voulait pas fonder. Émilie voulait rentrer chez les filles de la charité. Et son père lui avait dit, pas question, je ne veux pas que tu quittes la région, je veux te garder auprès de moi. Et là-dessus, il y a un laïc, M. Debar, qui était pour les gens de l'époque un saint homme, a eu comme une révélation la nuit. Et il a vu que Émilie, que Mademoiselle de Villeneuve, fondait une maison pour accueillir les enfants abandonnés. Alors le lendemain, il est allé au château et il a dit « Voilà ce que j'ai vu ». Et Émilie s'est montrée très réticente, mais s'en est ouvert à l'évêque. Et Monseigneur lui a dit « Mais dans le fond, vous êtes peut-être appelé à ça ».
Allez, on va aller au jardin. Au jardin dans lequel se trouve donc la tombe d'Émilie.
Oui, au fond du jardin. Et elle est accessible par tout le monde. Nous avons des... Ah, bonjour Monsieur Guibert.
Bonjour Michel.
Nous avons des personnes qui viennent directement à la tombe, qui ne viennent pas nous voir.
Ah,
quoi.
Oui, oui.
Et c'est bon, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'elle soit accessible.
C'est un espace ouvert.
Oui, alors là, oui. Nous accueillons beaucoup de groupes qui viennent pour se retrouver, des rassemblements ou autres. Le directeur du lycée est très favorable et quand il y a besoin, il dit « si, si, allez-y, prenez la classe, la maison est ouverte ». Bonsoir, monsieur. Voilà donc la tombe qui a été refaite. En fait, on n'a pas touché le corps de la tombe. Hein. Et vous voyez, on a donc organisé des banquettes des deux côtés. Le soleil y donne. L'été, il y a de l'ombre. Donc, chacun peut y trouver son compte.
Et donc, derrière la tombe, il y a une statue de la
Alors, Vierge. Alors, derrière la tombe, on a tenu à remettre une statue de la Vierge. Parce que du temps d'Émilie, Émilie avait fait ériger comme une grotte avec la Vierge dedans. Et les sœurs venaient tous les jours pour une prière à Marie. Et alors on a donc voulu garder la Vierge, mais cette fois-ci on a ouvert la grotte sur le monde et on a fait la planisphère en indiquant où sont les filles d'Émilie.
Qui sont parties vraiment sur tous les continents.
Sur tous les continents.
Nous sommes à présent à Gaillac, dans les lieux mêmes où Émilie de Vialard fonda la première communauté des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Nous sommes avec sœur Marie-Pascale, aujourd'hui décédée.
On peut monter à pied aussi, c'est pas loin, c'est au premier étage.
Alors là, on va où?
On va à la salle de communauté, où vous allez voir un portrait d'Émilie, ancien, je dirais pourquoi.
Donc voilà, donc ici, juste en face de nous, donc voilà. C'est le portrait d'Émilie.
C'est le portrait d'Émilie, alors c'est le plus ancien portrait, on est sûr, parce que, bien sûr, il n'y avait pas de photo à cette époque encore, mais elle n'a pas le voile. Donc, elle a, si on regarde le costume, c'est le costume des dames de l'époque, à peu près, avec le chapeau, hein, là. Et puis, sauf qu'on ne voyait pas les cheveux. Elle mettait un bandeau, tout ça, pour ne pas voir les cheveux. Mais sinon, c'était le costume des dames de l'époque avec simplement tissu très simple. Mmh. Et puis, il faut quand même remarquer qu'elle a un tablier. Ce qu'on voit ici, là, c'est un tablier. Je pense que c'est par esprit de service. Quand vraiment elle faisait du travail matériel, mmh. elles mettaient autre chose par-dessus. D'accord. Mais voilà, hein, donc elles étaient comme des dames, quoi, simples, mais ce signe de service, bon, et puis la croix.
Et puis la croix.
La croix, oui, bien la sûr. Croix.
Donc là, c'était, elle avait déjà fondé la...
Là, elle avait déjà fondé,
elle avait déjà fondé,
oui.
La congrégation.
Oui. Mais après, peu de temps après, dans les premières années, on l'a obligée à mettre un voile. Donc après, elle avait un voile. On a dit, pour des religieuses, il faut un voile. Donc, elle en a mis un. Mais sinon, au point de départ, c'était le costume des dames, mais en très simple.
Et vous-même, d'ailleurs, vous n'êtes pas un habit. Hein.
Justement, moi, je ne suis pas... Et en France, alors, ça, l'habit, c'est très variable selon les pays. En France, en général, on n'est pas en habit, quoiqu'ici, à la communauté, il y en a une française. Bon, il y a Sœur Dorothy qui, en Birmanie, sont bien en habit. Mais il y a une française qui est en habit. Et sinon, on s'habille... Quelquefois, je dis, mais moi, je suis comme Sainte-Émilie, parce que je suis habillée comme les dames de mon temps, mais simple.
Ce qui lui permettait peut-être d'entrer plus facilement en relation avec ses semblables ou...
Non, moi j'aurais plutôt vu le fait que elle, c'était pas une vie contemplative complètement qu'elle voulait. Donc elle a d'ailleurs beaucoup lutté pour ça. Autant elle insistait sur le recueillement, autant elle ne voulait pas une vie cloîtrée. Elle voulait une vie ouverte aux autres, qui aille vers les autres. Bon, depuis Saint-Vincent de Paul, ça se faisait beaucoup en France, il y avait beaucoup de congrégations, mais elle, c'était aller vers les autres à l'étranger. À l'étranger, parce qu'à l'étranger, il y avait des gens qui ne connaissaient pas la foi chrétienne.
Et puis, bon, c'était peut-être aussi dans l'esprit du moment, voilà, c'est le milieu du 19e siècle.
C'est l'expansion coloniale, et en même temps, c'est l'expansion missionnaire féminine.
C'est une pionnière, quoi.
C'est une parmi les pionnières. Oui, tout à fait.
Elle est allée, je crois, au début, elle est partie en Afrique du Nord.
Oui, elle est partie en Algérie parce que justement, un de ses frères était un des premiers colons d'Algérie. Et donc, voyant la misère des gens, il dit à sa sœur, viens ici, tu auras de quoi faire.
Il y a du travail.
Voilà, il y a du travail et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Et une femme forte et qui n'a jamais baissé les bras, et pourtant des difficultés, il y en a eu.
Oui, c'est vrai qu'elle avait un caractère très fort, parce qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'évêque d'Algérie, ici à Gaillac, avec son assistante. Bon, ce qui fait qu'elle s'est expatriée à Toulouse. À Toulouse, ça a été difficile aussi parce qu'elle n'était pas connue, c'était une grande ville, et puis les mauvaises langues de Gaillac n'étaient pas trop trop loin non plus, enfin, etc. Donc elle a fini par... C'est l'évêque de Marseille, Monseigneur de Masneau, enfin Saint-Eugène de Masneau maintenant, qui l'a accueillie, lui au contraire, très très bien. Et donc la fin de sa vie a été beaucoup plus... calme, voilà. Disons.
Mais la mission, s'ouvrir à l'étranger, partir ailleurs, c'était sa vocation, son appel.
Ah oui, crois. Plus j'étudie les lettres, plus je suis persuadée que c'est surtout faire connaître et aimer Jésus. Je pense que c'est surtout ça. Alors, évidemment, par le moyen qui pouvait être les siens, de témoignage, donc des moyens indirects, souvent, puisque c'était dans des pays... qui ne connaissaient pas du tout, quoi. Hein. C'est les pays musulmans, les pays où il y avait... Par exemple, elle a très vite vu en Algérie, où il y avait des musulmans et des juifs. Donc, bien sûr, elle s'est très vite rendue compte qu'il ne fallait pas parler de Jésus comme ça. Mais pour moi aussi, ce qui résume bien, c'est qu'un jour, un chef arabe a montré, en la voyant qui soignait des gens, des arabes très, très mal en point, il a montré le Christ qu'elle avait sur sa croix, hein, sur la poitrine, et il lui a dit « Celui-là est bien bon qui te fait faire ces choses ». Et là, je crois qu'elle était contente. Je pense. Hein. Il me semble que là, elle disait « Mon but est atteint ». Parce qu'elle s'est très vite rendue compte que ce musulman, il ne se ferait pas chrétien. il n'arriverait pas jusque-là, mais
que il l'avait déjà, reconnu quand même.
Voilà, que déjà ils reconnaissent que Jésus était un Dieu bon, était Dieu et qu'il était bon, c'était déjà, enfin je pense que pour elle c'était une réussite.
Alors, Sœur Marie-Pascale, nous parlons depuis un petit moment justement de la spiritualité d'Émilie de Viala. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un petit peu, de façon plus approfondie, cette spiritualité?
Alors, je vous dirais, les piliers de la spiritualité de Sainte Émilie, c'est d'une part, elle a prié beaucoup devant un tableau qui se trouve à l'église Saint-Jacques de Montauban. Elle ne le dit pas, hein, mais vu tout ce qui s'est passé après, on est sûr que c'est devant ce tableau. Un tableau qui représente l'apparition de l'ange à Saint-Joseph, quand l'ange fait comprendre à Joseph que l'enfant que Marie attend vient de l'Esprit-Saint. Et donc, je pense que ça, c'est un premier pilier de sa spiritualité. Elle a été frappée petit à petit par ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a envoyé son Fils unique. Et la deuxième chose, c'est quand à l'église Saint-Pierre, qui est là à côté, un jour où elle faisait une visite au Saint-Sacrement, elle a eu la vision de Jésus avec les cinq plaies. Et je pense que ça a complété. Jésus a tellement aimé les hommes qu'il a donné sa vie pour eux. Et donc, moi aussi, je dois donner ma vie pour les autres. Et il y a aussi le lien très fort, quand on pense à cette vision à l'église Saint-Pierre, il y a le lien très fort entre l'Eucharistie et le sacrifice de la croix. Puisqu'elle faisait une visite au Saint-Sacrement, donc elle priait Jésus hostie, et elle dit elle-même, ce qui est très bien pour nous parce que ça la rapproche de nous, que quelquefois elle avait des doutes sur cette présence réelle de Jésus dans l'hostie. Et il me semble que sa vision, c'est un peu comme si Jésus lui donnait la réponse. Tu vois, tu es en train de me prier, moi, dans l'hostie, mais c'est bien moi, le même, qui ai donné ma vie pour toi. Et donc, toi, fais pareil.
Alors, si je vous suis bien, sa vie, elle est partagée, je veux dire, entre le faire et l'être.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la contemplation qui mène à l'action. Hein. Et elle insiste beaucoup, là, dans les premières constitutions aussi, ou même les premières lettres, enfin, les lettres qu'on étudiera l'année prochaine, là, hein, que les sœurs puissent avoir des temps de silence. Le silence, elle insiste beaucoup sur le silence, mais le silence, pas pour le silence en lui-même, mais pour pouvoir contempler, pour pouvoir penser à Dieu et ne pas gêner ceux qui, par exemple, n'ont pas le même emploi du temps. Alors ça, c'est encore plus vrai de nos jours où nous avons des emplois du temps très, très différents. Mais voilà, hein, respecter pour qu'on ait du temps de recueillement. Elle dit que le recueillement est l'esprit propre de la congrégation.
Donc là, on se dirige vers la chapelle.
Soyez soleil sur nos pas, que chantons-nous votre voix, votre foi, pour découvrir la joie.
Pour parler d'Émilie de Rodin, nous laisserons la parole aux religieuses du Carmel de Harissa, qui ont écrit une icône sur Sainte Émilie de Rodin.
Fondatrice de la Congrégation de la Sainte Famille de Villefranche de Rouergue. L'icône, un reflet de la gloire, veut nous montrer les saints dans la lumière de Dieu. Le nom de notre sainte est écrit sur l'or, c'est-à-dire dans le livre de vie. Elle apparaît au centre, debout, sur le roc. Elle a fondé sa vie sur Jésus-Christ. C'est pour cela que son pas est ferme, sûr. Toute sa confiance est en lui. Il peut alors faire d'elle ce qu'il veut. Elle répond par un humble fiat, celui de sa mère Marie, représentée en haut de l'icône, dans la miniature de la Sainte Famille. Comme elle, elle incline la tête en signe de soumission et d'humble service. Par sa main droite, ouverte, elle accueille la grâce. Tout lui vient de la prière. Dans sa main gauche, nous voyons sur un parchemin que c'est bien la charité seule qui la meut. L'amour ne dit jamais assez. Sa fécondité est le fruit de sa contemplation et de l'union intime de son âme avec la Sainte Famille. Voilà pourquoi l'icône de la Sainte Famille préside l'icône de notre Sainte. Elle est de plus le fruit de sa fidélité à la parole de Dieu. Elle dit elle-même dans son testament à ses filles « Faisons tout ce qui dépendra de nous pour mériter d'entendre de notre divin époux ses consolantes paroles. »
Sainte-Émilie de Villeneuve, Sainte-Émilie de Vialard, Sainte-Émilie de Roda, trois figures de la sainteté qui nous font entrer cette semaine dans la communion des saints.